Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie d'être avec vous ce matin. Je vous inviterai à tourner dans vos Bibles au psaume 122. Donc le psaume 122, le cantique des degrés. Donc avant toute chose, je vous invite à la prière. Seigneur, quelle grâce dans ta parole tu te révèles à nous. Seigneur, saisis-nous ce matin dans tes mots, dans ce que tu veux nous dire. Montre-nous le chemin, comment être transformé et comment savoir te célébrer. Je veux m'humilier devant toi, Seigneur, et demander ta grâce, ton esprit pour comprendre ta parole et pouvoir la partager ensemble. Montre-nous comment devenir de meilleurs adorateurs de ton nom et saisir ce que tu veux nous dire, même en ce début d'année. Quels sont les défis que tu veux nous donner à chacun personnellement, Seigneur, montre-nous ce que tu aimerais changer en nous ou voir grandir. Montre-nous ton chemin, Seigneur, et qu'on soit prompt à t'écouter et rapide à être transformé, rapide à vouloir te célébrer dans nos vies avec chaque chose que nous avons. Glorifie ton nom ce matin, Seigneur, sois honoré, c'est notre prière. Amen. Donc, chacun d'entre nous, à un moment dans notre marche spirituelle, on a eu des livres, des histoires, des expériences personnelles qui nous ont marqués. À un moment dans ma vie, quand j'étais un adolescent, j'ai passé un cap et j'ai commencé à vraiment me régaler dans les livres. D'ailleurs, il y a toute une richesse spirituelle dans le bureau du pasteur juste à côté. Juste une publicité. Vous pouvez toujours emprunter un livre et grandir. Il y a vraiment des trésors. Et un des trésors que j'ai trouvé dans cette bibliothèque, c'était la biographie de John Bunyan. Quelqu'un connaît John Bunyan? Ou la plupart des gens connaissent? Quelqu'un connaît Le Voyage du Pèlerin? Voilà, tout le monde connaît. John Bunyan était un pasteur anglais qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Et en lisant sa biographie, j'ai été marqué par les parallèles qu'on peut voir entre la vie de John Bunyan et son livre Le Voyage du Pèlerin. John Bunyan, quand il était un jeune chrétien, il a vécu beaucoup de tentations et il a dû trouver la force en Christ et au travers de sa parole en particulier. Et beaucoup de difficultés. Le livre Le Voyage du Pèlerin a été écrit quand il était même en prison. Donc il a vécu beaucoup de difficultés, même de persécutions, alors qu'il voulait combattre pour la foi et pour les Écritures. Et il a vécu beaucoup de choses difficiles et avancé dans son voyage, son pèlerinage dans la foi. Il écrit ce livre Le Voyage du Pèlerin, un peu pour encourager les plus jeunes pèlerins, vous et moi, à savoir comment marcher dans ce voyage, dans ce pèlerinage avec nos tentations et nos difficultés. Et au travers de ce livre, donc, il nous montre comment être un pèlerin et comment chérir la parole de Dieu comme lui il l'a chérie. Et de la même façon que John Bunyan est un pèlerin plus âgé qui enseigne des pèlerins plus jeunes comme nous à marcher dans la vérité et dans les Écritures, dans ce psaume, au psaume 122, on trouve un ancien pèlerin qui nous enseigne aussi quoi chérir dans notre pèlerinage. Et ça va nous intéresser en particulier, alors qu'on commence une nouvelle année, on a pris des nouvelles résolutions. Qu'est-ce qu'on va poursuivre cette année? Qu'est-ce que l'on va chercher? Pourquoi ne pas recevoir l'instruction d'un ancien pèlerin qui a déjà vécu son voyage et qui veut nous partager ce que lui a trouvé et ce que lui a chéri. Donc, sans plus tarder, lisons ensemble le psaume 122. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. » Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. à cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. » Donc, je disais, ce psaume est un des cantiques des degrés. Cantique des degrés commence au chapitre 120 et part jusqu'au 134, je pense. Ce sont des cantiques qui étaient utilisés vraisemblablement lors des différents festivals qu'il y avait en Israël, alors que les gens venaient d'un peu partout vers le temple pour participer à ces festivals, pour célébrer l'Éternel. Ils partaient dans un voyage d'un peu partout en Israël pour se rassembler ensemble pour louer Dieu, et ils chantaient ces chants, ils récitaient ces textes pour se préparer à la louange et à l'adoration. Donc, on voit ça déjà au verset 1. « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Le temps pourrait même être passé. J'étais dans la joie quand on m'a dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Et maintenant, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. On m'a dit « On va aller au temple. » Cette année, on va aller faire les festivals avec le peuple de Dieu. On va aller voir le temple de l'Éternel à Jérusalem et on va aller le célébrer. Le langage hébreu, on a l'impression qu'il est un peu imprégné d'autres langues. C'est comme moi, quand je vous parle français, je parle français avec des petits anglicismes, vous voyez. Je viens des États-Unis, alors j'ai perdu mon français. Ben, lui, l'auteur, il parle hébreu, mais il parle hébreu avec un hébreu du nord d'Israël, avec un hébreu qui a été influencé par d'autres langues qui sont proches du nord d'Israël. Donc, vraisemblablement, on a un pèlerin qui vient du nord d'Israël, qui vient à Jérusalem pour célébrer les festivals. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Le pèlerin qui a fait son pèlerinage a trouvé quelque chose d'unique. Il a trouvé un endroit où Dieu se révèle, un endroit où la parole de Dieu est partagée et où les hommes et les femmes ont soif de l'instruction et obéissent à la loi. Il célèbre tout d'abord, au verset 1, la maison de l'Éternel, ce lieu que Dieu a choisi pour y demeurer. Sous le règne de Salomon, alors que la maison de l'Éternel a été construite, on voit la gloire de Dieu qui descend dans le lieu pour montrer qu'il est présent parmi son peuple. Il est proche du peuple et c'est là aussi que sa parole est récitée, que ses serviteurs, les prêtres font les sacrifices et que les hommes, les femmes, n'importe qui peuvent aller pour recevoir instruction dans la parole en particulier. Le temple de l'Éternel, la maison de l'Éternel, un lieu unique. Il célèbre, le pèlerin célèbre ce lieu où Dieu est présent. Deuxièmement, des versets 2 à 4, il célèbre le peuple qui s'unit dans l'obéissance. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tu es une ville dont les parties sont liées ensemble. Le texte n'est pas vraiment très clair. Mais en fait, en hébreu, c'est une expression un peu architecturale, si je pourrais dire. C'est le psalmiste célèbre même la ville elle-même dans sa conception d'architecture de bâtiment. Jérusalem, c'était une ville qui était petite, avec plein de bâtiments concentrés ensemble, mais qui était formée pour recevoir les gens qui venaient de partout pour faire la célébration des festivals. Jusqu'au point qu'au temps de Jésus, la petite ville de Jérusalem pouvait recevoir 1 million de personnes à chacun des 3 festivals qui y prenaient place. Donc il célèbre la ville où toutes les différentes tribus se rejoignent. Verset 4, c'est là que montrent les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël pour louer le nom de l'Éternel. Alors si on se souvient, au temps de la conquête de Canaan, les différentes tribus ont été attribuées un territoire. Et Juda, par exemple, a eu son territoire et Jérusalem était dans Juda. Sauf que la ville de Juda n'a pas été conquise jusqu'au temps de David. Il y avait les juges, il y avait Saül. Jérusalem n'était pas conquise. C'était toujours une ville cananéenne. Et au temps de David, David l'a conquise. C'est pour ça qu'on l'appelle la ville de David. Et c'est pour ça qu'elle a été une ville clé aussi dans l'unité du pays d'Israël. Elle était moins empreinte de l'identité d'une tribu au début. Et David, choisissant cette ville comme sa capitale, tout le monde pouvait venir d'un peu partout pour être unis socialement, unis de façon spirituelle en célébrant Dieu et unis économiquement aussi. C'est un centre point clé pour l'unité de tout le groupe qui vient dans l'obéissance. Comme on voit au verset 4, c'est la loi en Israël pour louer le nom de l'Éternel. Je vais vous lire Deutéronome 16, 16 et 17. L'instruction de Moïse. « Trois fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. » Moïse avait donné cette prescription que tous les hommes se réunissent trois fois par an, toute une semaine, pour louer le Seigneur et et célébrer ses festivals. Donc, du temps de David, quand David a fait de Jérusalem sa capitale et que le temple a été construit à Jérusalem, c'est devenu ce centre de la célébration et le centre des festivals. Je pense qu'on dit festival, non, festival. Merci. Donc c'est devenu le centre de la célébration des différents festivals. Donc les gens venaient d'un peu partout pour célébrer le festival. C'était une recommandation de Moïse, mais qui n'était pas forcément facile à accomplir. Disons que je vous demande, trois fois par an, vous allez prendre une semaine de repos de votre travail et vous allez aller à Paris pour faire la fête, non, pour des célébrations nationales. Amen. C'est pas tout le monde qui pouvait faire ça. C'était une grosse décision et ça coûtait beaucoup à chacun de prendre trois semaines par an pour aller au temple et faire le festival. Mais quand quelqu'un le faisait, ça montrait une marque d'obéissance et une marque d'engagement envers le Seigneur et envers sa prescription. C'est là que toutes les tribus montent selon la loi d'Israël afin de louer le nom de l'Éternel. Donc on a vu ce pèlerin, il se souvient de ce voyage qu'il a fait vers Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu où le temple de l'Éternel est, c'est le lieu que Dieu a choisi pour se révéler. Deuxièmement, c'est le lieu où le peuple de Dieu, dans sa diversité, de toutes sortes de différentes tribus, s'unissent afin d'obéir et afin de célébrer Dieu. Et finalement, verset 5, c'est aussi le lieu que Dieu a choisi pour établir sa justice. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Dieu a choisi un oin, David, et il lui a donné le privilège de pouvoir partager sa justice et établir sa justice sur Israël. David était l'instrument, l'agent de Dieu pour que Dieu établisse son règne dans sa justice au travers de ce qu'il a donné dans sa parole pour que le peuple puisse vivre dans l'équité et dans la droiture. Le pèlerin qui se souvient de son voyage célèbre ces choses. Il célèbre Jérusalem parce que c'est la ville que Dieu a choisie pour se révéler. C'est la ville où le peuple est uni, le peuple qui aime vraiment Dieu et qui veut le servir. Et c'est la ville où Dieu établit sa justice, son royaume par son oin. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il n'y a pas besoin de grands débats théologiques pour voir un certain parallèle. De nos jours, où est-ce que vous voyez le lieu où Dieu se révèle ? Où est-ce que Dieu se révèle ? Où est-ce que le peuple de Dieu s'unit dans sa diversité pour louer Dieu, pour lui obéir ? Où est-ce que le fils de David, loin de Dieu, établit son royaume dans sa justice et dans l'équité. Où est-ce que nous voyons ces différents caractères ? ces différentes caractéristiques. Je pense qu'on les trouve dans l'Église. Il n'y a pas besoin de grands débats théologiques pour voir un parallèle ici. Comme ce pèlerin célèbre la révélation de Dieu et tout ce qu'il a donné à Jérusalem, il nous invite, nous, dans notre voyage et dans cette nouvelle année, pourquoi pas, à célébrer ce que Dieu a donné. Il a fait une grâce incroyable. Dieu se révèle. Où est-ce qu'il se révèle? Il se révèle parmi nous, dans l'Église. Célébrons ce fait que nous avons l'Église, que nous avons les uns les autres, dans l'unité, dans la diversité. Nous voulons célébrer Dieu pour l'obéir et pour grandir, pour être instruits. Et ensemble, nous voyons le royaume de Dieu s'accomplir dans nos vies. Et alors que nous partageons dans sa justice, en étant transformés et en cherchant à vivre dans l'équité et à propager son royaume. Nous avons une grâce énorme, l'Église. Cette année, est-ce qu'on va s'engager à célébrer l'Église, à vivre l'Église à fond, pleinement, à vivre les uns les autres à fond, pleinement. Mais le psalmiste sait aussi, tout ce qu'il y a de précieux doit être protégé. Des versets 6 à 9, il nous donne une mise en garde. Il nous demande de prier. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Dans le verset 7, les mots mur et palais peuvent être traduits différemment, plutôt comme défense, forteresse. Que la paix soit dans tes murs de défense et la tranquillité dans tes forteresses. Mais pourquoi est-ce qu'une ville a besoin de murs de défense et de forteresse? À quoi ça nous fait penser? Ça nous fait penser à la guerre. Ce qui est précieux doit être protégé parce qu'il peut recevoir les attaques. La ville de Jérusalem était une ville précieuse où Dieu était célébré, où le peuple de Dieu s'unissait, où le royaume de Dieu prenait place, mais c'était un lieu qui devait être protégé à cause de justement pour que ces choses puissent être gardées et puissent grandir. La paix, ce n'est pas juste une paix de stabilité, de tranquillité, mais c'est une paix qui permet de produire du fruit. Dans un contexte de guerre, par exemple, ce n'est pas juste la fin des hostilités. C'est la fin des hostilités plus le potentiel pour pouvoir porter du fruit économique, social, de justice, avoir des relations internationales, par exemple, dans un contexte de guerre, je veux dire. Mais donc, cette paix pour Jérusalem, c'est la paix qui devait pouvoir lui permettre de porter du fruit. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. C'est un appel à ceux qui partagent sa vision de la célébration. On veut célébrer Dieu, que tous ceux qui célèbrent Dieu soient dans la paix et que eux, comme les habitants de cette ville, puissent vivre dans la paix qui permet de produire du fruit. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. On voit encore le désir pour l'unité. Tous ces gens qui viennent d'un peu partout en Israël pour célébrer Dieu, pour vivre ensemble ce que Dieu a donné dans ses promesses dans le Pentateuque, ils le vivent ensemble et ils veulent le garder. De la même manière, ce pèlerin qui vient du nord peut prier pour cette ville et pour la paix dans cette ville qui n'est pas forcément la mienne, afin de garder l'unité dans le pays et aussi la célébration de Dieu dans leur obéissance et en particulier avec la maison de l'Éternel. On voit au verset 9, à cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, et je fais des vœux pour ton bonheur. La maison de l'Éternel est mentionnée au verset 1, au verset 9. C'est quelque chose qu'il garde toujours en tête. Au verset 9, on voit que la prière qui est efficace, ce n'est pas juste celle qui est parlée. Il finit, il dit « Je fais des vœux pour ton bonheur ». De façon plus littéraire, on pourrait dire « Je recherche pour toi ce qui est bon ». La prière, ce n'est pas juste celle qui dit je prie quelque chose pour toi parce que je sais que tu es en besoin, mais c'est celle qui nous pousse aussi à agir. J'ai à cœur, par exemple, si Philippe prêche aux États-Unis, s'il me dit « Jean, il faut que tu m'encourages, je fais une étude sur ça, est-ce que tu peux prier pour moi ?» Prier avec cette attitude de l'action, c'est prier, soutenir, être dans la prière, prier peut-être avec lui, peut-être lui donner des mots d'encouragement, une lettre ou un email, quelque chose pour l'encourager. Et de la même manière, les uns pour les autres, on est appelés à prier les uns pour les autres. L'Église, c'est quelque chose de précieux. Notre ancien pèlerin nous invite à célébrer l'Église, il nous invite à la protéger, à prier les uns pour les autres, à se garder les uns les autres. L'Église peut porter du fruit. L'Église a un potentiel unique. Jésus disait dans sa prière en Jean 17, quand il priait au Père, il disait « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Cette gloire qui était en Christ, qui a bouleversé le monde quand il est venu, il l'a donnée à l'Église. Il nous a donné un potentiel au travers de son instruction, au travers de son esprit, pour le faire connaître aux nations, pour que nous puissions nous édifier les uns les autres aussi, et pour que nous puissions le célébrer. Nous avons ce trésor caché que nous possédons, et nous devons le garder, et nous devons prier les uns pour les autres, afin que l'on puisse en saisir le plein potentiel et l'utiliser. Combien de fois est-ce que vous avez prié pour Samuel cette semaine? Combien de fois est-ce que vous avez prié pour Michel? On est tellement pauvre dans la prière. On ne se soutient pas les uns les autres. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne s'aime pas? Est-ce que ça veut dire qu'on ne chérit pas ce que Dieu nous donne? On a un défi cette année. Ensemble, on peut vivre dans l'unité, on peut prier les uns pour les autres, on peut chercher à se soutenir et même à agir pour que chacun les autres puisse être trouvé fidèle et porter du fruit. On a ce trésor les uns dans les autres. Et notre défi cette année, c'est de saisir ce trésor, de saisir le potentiel que nous avons ensemble pour refléter la gloire de Dieu et le célébrer, lui donner la louange qu'il mérite, que nous soyons trouvés fidèles dans ce défi que Dieu nous donne aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour l'Église. Au travers du temps, Seigneur, tu l'as utilisée pour être un témoignage dans ce monde. Tu as bouleversé des empires, tu as bouleversé des royaumes, tu as marqué les temps et ton Église tient toujours. Oui, tu as bâti ton Église, elle est toujours là, elle tient toujours debout, Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons le privilège et la joie d'en faire partie. Et nous avons le privilège d'avoir ce défi de la célébrer, de la mettre à sa place et de se donner pour elle. Seigneur, enseigne-nous comment se supporter les uns les autres, se soutenir, comment prier les uns pour les autres de façon régulière et intentionnée, et comment exprimer cet amour que nous avons les uns pour les autres avec des gestes qui s'encouragent mutuellement. Donne-nous les mots pour nous parler, donne-nous l'amour pour nous entourer, et que ton nom, Seigneur, qui mérite d'être glorifié, soit glorifié comme tu le mérites, alors que tu nous as prêté ce don. Cette gloire qui était en Christ, nous voulons la voir élevée comme lorsque Christ était sur la terre. Sois élevé au travers de ton Église, sois glorifié et que tu reçoives la louange qui t'est due dans le nom de Christ. Amen.